Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 30 septembre. Petite journée grise. Ben, c'est un magnifique temps pour nous écouter. Hein? On vous parle de voyage, de nature et de science, comme à notre bonne habitude, je crois. Je suis Michel Audet. Je suis en compagnie ce matin de Anne Chiasson.
Oui, bonjour Michel.
Bonjour Anne. Alors, c'est notre petite nouvelle.
Oui, tout à fait.
Qui on souhaite la bienvenue.
Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de me joindre à vous.
Bien. Anne, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une forme de tourisme qui prend de plus en plus d'ampleur. On appelle ça le cyclotourisme.
Oui.
Je vais vous donner différentes avenues dans différents coins du globe. Et si nous avons un petit peu de temps, un petit peu plus tard dans l'émission, comment se sent-on dans la peau d'un béluga? Je n'en dis pas plus.
Ça m'intéresse. On va essayer de trouver du temps, bien sûr. De mon côté, je vais vous amener faire un tour au parc de Yosemite. Bon, je sais que certains disent Yosemite, mais je préfère Yosemite. Puis, avez-vous une idée pourquoi les ventouses collent?
Ben moi, je ne le sais pas, Michel.
Parfois, des cols aussi, faut le dire maintenant. Et je vais vous amener dans le monde de l'écureuil. L'écureuil gris, plus particulièrement, mais qui n'est pas toujours gris. Et le micro-ondes. Vous avez déjà mis quelque chose en métal dans votre micro-ondes? Je n'ai pas osé encore. Et pourquoi ça ne fonctionne pas nécessairement très bien? Ben on le verra. Et là-dessus, on se fait une petite pause musicale.
Honey goes along like goat herd.
Lay, hold-a-lay,
hold-a-lay. Loud as the voice of the lonely goat herd.
Lay, hold-a-lay, hold-a-low.
Folks in the town that was quite remote heard.
Lay, hold-a-lay,
hold-a-lay. Lusting clear from a goat herd slow herd.
Lay, hold-a-lay, hold-a-low.
Ho, ho, lady, lay.
On the bridge of the castle moat her.
Lay, oh, lady, oh, lay, oh.
Men on the road with a load to tow her.
Lay, oh, lay, oh, lay.
Men in the midst of the cobbled dirt her.
Lay, oh, lay, oh, lay, oh.
Men drinking beer in a foam of float her.
Lay, oh, lay, oh, lay.
One little girl on a pale pink coat her.
Lay, hold-a-lay, hold-a-lay.
She yodeled back to the lonely goat her.
Lay,
now soon her mama with a gleaming glow her.
Lay, hold-a-lay,
hold-a-lay. What a duet for a girl and a goat her. Become a trio.
Oh, alors c'était Pink Martini pour nous réveiller avec une chanson qui s'appelle Lonely Goat Herd, donc berger solitaire.
Le berger, oui, oui, c'est ça. Si on a essayé de trouver, c'est pas évident. Hein. Donc, je me pensais avec la famille Von Trapp.
Oui, moi aussi.
Bon, sur ceci, soyons sérieux, Sylvain Sarrazin nous amène, c'est tiré de la presse du 12 juillet. Nous amène faire un tour au parc de Yosemite. Il y a peu de photographes ou de photographies qui parviennent à restituer vraiment l'impression qu'on a que lorsqu'on s'engouffre dans la vallée californienne de Yosemite. C'est une espèce de sensation d'écrasement et d'émerveillement aussi en même temps. Ça a été scruté il y a des millions d'années par des activités volcaniques, puis l'érosion glaciaire aussi. Et les paysages de Yosemite sont au cœur de la Sierra Nevada et c'est situé en fait un petit peu à l'est de San Francisco, Yosemite. Et c'est pas éternel ces paysages-là parce que il y a plusieurs incendies qui ont ravagé Yosemite. Particulièrement, je vérifiais, le 15 septembre 2014, Yosemite, c'est un village aussi, et il y a 1000 personnes qui ont dû être évacuées. Des incendies importants. Vous avez peut-être vu, en Californie, il y a eu beaucoup d'incendies cet été. Et ça a failli défigurer et chambouler l'écosystème du troisième site naturel le plus fréquenté des États-Unis. Il y a plus de 3,5 millions, 3 millions et demi de visiteurs à chaque année. Ben, il y a certaines zones du parc qui sentent encore le roussi et la vallée centrale, la partie la plus prisée, s'en est quand même sortie indemne. Tout à coup, vous allez voir El Capitan.
Oh! Qu'est-ce que El Capitan?
El Capitan. El Capitan, c'est impossible de rater. Hein? C'est que dès l'entrée de la vallée, vous voyez un monolithe granitique qui est vraiment vertigineux, qui a une paroi qui est haute de près de 1 km. Donc, vous avez des grimpeurs, intrépides grimpeurs qui vont s'y mesurer. Puis, lorsqu'on les voit, ils semblent réduits à des tas de fourmis. Quelques kilomètres plus loin se dessine la grande vedette de Yosemite, c'est le Half Dome. Half Dome, c'est un titan de granit qui donne... Ça donne pas dans la demi-mesure, hein? Les randonneurs expérimentés qui prétendent caresser son sommet, c'est à 2700 mètres d'altitude. Et ils vont le payer d'un minimum de 10 heures de marche.
Oh là là, c'est pas rien, hein?
Non. Du village de Yosemite, déché au cœur de la vallée, il y a une modeste heure de marche, bordée de falaises, et qui va nous amener à Mirror Lake. Le nom le dit, Mirror Lake, le lac miroir. Donc, sur la surface des eaux, ce havre de paix verdoyant. Et vous voyez refléter toutes les cimes alentour. Donc, un double paysage. Vous arrivez à la rivière Merced, la rivière de Merci, qui se coule paresseusement. Vous remontez sa source et ça va vous faire découvrir une quinzaine de cascades absolument remarquables qui sont disséminées au gré du parc et très faciles d'accès. Vous avez la chute de Lower Yosemite, qui offre un bon aperçu. Vous avez aussi des cascades de Vernal et Nevada.
Ah, les cascades. Moi, je pense aux chutes. Est-ce qu'on peut comparer ça à quelque chose qu'on connaît ici?
C'est vraiment moins colossal. Il y a peu de chutes qui peuvent se comparer, en fait, parce que le débit de Niagara est colossal. Mais c'est le cadre qui est intéressant. Tout ce qui est alentour, le paysage, les falaises, c'est un tableau absolument unique. Et au départ du village, il y a un éventail de randonnées qui se profile de la petite boucle familiale d'une heure de marche à l'expédition d'une semaine à travers le parc. Et afin de prendre du recul, de jouir des meilleurs panoramas, il suffit de se hisser jusqu'à Glacier Point, l'endroit du glacier. Il faut le faire en véhicule, cependant. Et ça, c'est un des points culminants avant de redescendre le long des sentiers de Panorama Trail. Le nom le dit. Les noms sont évocateurs. Hein? Oui. Panorama Trail. On comprend tout de suite qu'est-ce que c'est.
Exactement.
C'est une vue panoramique. Et ne mettez pas cependant de surveiller où vous posez les pieds. Parce qu'il y a une faune locale qui compte toutes sortes de spécimens, reptiliens, entre autres choses, dont des lézards particuliers. Mm. Mais aussi, il peut y avoir d'inquiétants serpents. Et Cantal, entre autres choses, qu'on trouve aux États-Unis.
Oui, il faut faire attention.
Bien, si on est seul, parce qu'on est plusieurs, il faut dire qu'ils ont peur. Vous arrivez et vous trouvez des touffas. C'est T-U-F-A-S, c'est touffas. C'est situé à la sortie du parc. Il y a un immense lac salé qui montre des curiosités géologiques, les touffas, qui sont des colonnes argileuses qui se sont dressées lors du contact d'eau chaude sous pression avec les eaux froides du lac. Ce sont comme de grandes cheminées disséminées un peu partout. Et en arrière-plan, toujours magnifique, se dessinent les montagnes de la Sierra Nevada. Paysage de rêve, hein? Il y a de nombreux sentiers de randonnée qui sillonnent ces étendues un peu partout. Et ce que vous allez voir aussi, ce qui est intéressant, c'est les séquoias. Séquoias géants.
Mais dis-moi, Michel, séquoia, quand on dit géant, on parle d'une taille de...
Ça peut être tout à fait gigantesque. Il y en a un en particulier, j'essaie de trouver son nom. Ah oui, il s'appelle le Grizzly Giant. Ça aussi, c'est évocateur, hein?
Oui.
Le grizzly qui sur ses pattes arrière. C'est un séquoia qui est âgé, il semblerait, de 1800 ans.
Oh là là.
Et qui atteint une hauteur de 64 mètres. Donc, vous imaginez 64 mètres, faites-vous une idée, je dirais comme une quinzaine d'étages, peut-être.
Moins, au moins.
Donc, c'est très, très, très impressionnant. On ne donne pas le diamètre, mais j'ai vu des photos. Il y en a un, apparemment, qu'on a percé et les voitures peuvent passer à l'intérieur. La question que je me pose, c'est comment cet arbre fait pour survivre.
Mais exactement.
Avec un trou aussi gigantesque. J'ai pas de réponse. Si on veut aller au parc Yosemite, il y a un nombre très limité d'infrastructures et qui sont pris d'assaut à chaque année. Donc, les possibilités de dormir au sein de la vallée sont assez limitées et il faut prévoir vraiment beaucoup d'avance. Il y a encore beaucoup à dire sur Yosemite, mais il s'agit d'avoir un petit éveil à cet endroit. Hein? Et c'est Sylvain Sarrazin qui nous en parlait dans la presse du 12 juillet.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. About the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
Et c'était Octopus's Garden. Avez-vous reconnu le chanteur? Peut-être pas, Michel, l'avais-tu reconnu?
Non, pas du tout. Je me suis vraiment fait prendre.
Et ça, quand Jean-Sébastien nous a dit que c'était les Beatles,
je ne le croyais pas.
Mais presque pas. Et Ringo Starr, qui était à la voix, pour introduire le prochain sujet dont Michel va nous parler, s'appelle...
Les ventouses. Pourquoi les ventouses collent? Les pieuvres, hein, particulièrement.
Oui.
C'est un défi particulier. C'est tiré de Géo Savoir, juin-juillet 2014. C'est une mine d'informations, ce Géo Savoir. C'est un Géo Savoir hors série, en passant. C'est un défi singulier qui attend tous les jours une chauve-souris d'Amérique, l'Amérique centrale. Cette créature a pour habitude de se reposer à l'intérieur de feuilles qui sont enroulées sur elles-mêmes, comme des tubes. Mais comment la chauve-souris peut-elle tenir sur une surface aussi glissante? Ben, vous avez deviné à cause de mon titre, elle y parvient grâce à un attribut très particulier de son anatomie, ses mains, étonnamment, les mains de chauve-souris, qui chez les chauves-souris se trouvent au bout des ailes et ses pieds et qui sont munis de ventouses. Alors, dans la nature, cet ingénieux système est très courant. On le retrouve chez un animal que vous ne connaissez peut-être pas particulièrement, le ver solitaire. aussi, la sangsue, peut-être un peu plus connu. Oui, c'est très particulier. Mais celui qu'on connaît, l'animal qu'on connaît bien cependant, c'est la pieuvre.
Ah ben oui.
Très particulièrement, dont tout le monde a peur, mais qui n'est pas particulièrement dangereuse. Quant à l'homme, il utilise les ventouses comme un accessoire pour fixer, par exemple, un GPS à l'intérieur d'un pare-brise, faire adhérer un appareil électroménager au sol ou accrocher un porte-serviette au mur. Ça ne fonctionne pas toujours.
Il faut mettre de l'eau, il paraît, sur les ventouses.
Absolument. Mais on verra. Mais ça, ordinairement, c'est une question de qualité. Mmh. Alors que la ventouse de la pieuvre est de très, très grande qualité.
De première qualité.
Oui,
même.
C'est ça. Il y en a plusieurs, d'ailleurs. La force mystérieuse à l'œuvre derrière le mécanisme de la ventouse, c'est tout simplement celle de l'air. C'est la pression des particules d'air présentes dans notre atmosphère qui permet à ce dispositif d'adhérer à une surface. L'intensité incroyable de cette pression a été prouvée en 1657 par le chercheur allemand, que tout le monde connaît bien sûr, Otto von Guericke. Ben oui, c'est un chercheur allemand qui a fait une expérience spectaculaire. Le scientifique fit assembler deux demi-sphères de cuivre face à face. Elles étaient jointes de sorte que l'air extérieur ne pouvait s'immiscer entre elles. Puis, à travers une valve refermable, il pompait l'air contenu à l'intérieur de la sphère, ainsi formé, il formait un vide à l'intérieur. Alors, von Guericke fit atteler 6 chevaux de chaque côté de l'ensemble. J'ai pas pu faire autrement que de penser à Louis Cyr, l'expérience de Louis Cyr avec ses chevaux de chaque côté. Ça n'a rien à voir, c'est un aparté. L'idée, c'était de tenter de séparer les deux demi-sphères, 6 chevaux de chaque côté. Mais ça s'est avéré impossible. La simple pression de l'atmosphère comprimait si solidement les deux moitiés, l'une contre l'autre, que les 12 chevaux tirèrent en vain. Ils n'ont pas réussi à les séparer. Alors, nous, êtres humains, ne remarquons pas la présence de l'air, car les forces qui agissent de tous côtés sur notre corps se compensent. Et également parce qu'on est habitué à être entouré d'air. Mais comment cette force se déploierait-elle dans le cas des ventouses? Le plus souvent, les ventouses, on connaît leur forme, la forme d'une couperelle, d'une petite coupe ou d'un bol un peu arrondi. Fabriquée dans un matériau déformable, souvent du plastique, souvent de piètre qualité aussi, elles sont facilement applicables sur une surface lisse, comme le verre ou le carrelage d'une chambre de bain, par exemple. Alors, lorsqu'on appuie dessus, elles s'aplatissent. L'air qui se trouvait à l'intérieur est en grande partie expulsé. Alors, grâce à sa plasticité, la ventouse entreprend de revenir à sa forme d'origine. Elle veut reprendre sa forme d'origine. Donc, du coup, son pourtour se ferme hermétiquement. Alors, désormais, il y a sous la ventouse beaucoup moins d'air à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle abrite une zone de ce qu'on peut appeler de basse pression, ou si on veut, de dépression. La dépression de la ventouse, hein? ça me semble que ça ferait un beau titre, ça, non? Et comme les particules d'air sont beaucoup plus nombreuses en dehors de la ventouse, celle-ci subit une force supérieure de l'extérieur, qui la pousse, si on veut, qui la presse contre la surface sur laquelle elle a été appliquée. Le principe est donc aussi simple que génial, si on veut. C'est la nature qui nous l'a fourni, encore une fois. Et la profusion de ventouses dans le monde animal est la preuve de l'efficacité de ce dispositif et de sa polyvalence. On le retrouve chez des espèces très différentes qui l'ont développé indépendamment les unes des autres. On va parler du ver solitaire. Il s'en sert pour s'ancrer dans l'estomac de son animal. Et vous avez aussi un insecte qui s'appelle le ditique, qui est équipé de 2 grosses ventouses. Et il s'en sert pour s'accoupler et pour éviter de glisser sur la carapace de la femelle. Et quant aux sangsues, dotées d'une ventouse à l'avant et d'une autre à l'arrière, elles s'en servent pour se déplacer. Elles actionnent la ventouse arrière, s'étirent vers l'avant, font adhérer la ventouse avant et retractent leur corps grâce à elle. Ingénieux, hein, comme système. Et l'homme n'utilise pas le principe de la basse pression que pour fixer des crochets dans sa salle de bain. Il y a des grues modernes qui peuvent, en ayant recours à la même astuce, la ventouse, ils peuvent avoir avec une puissante pompe générant un vide d'air, ils peuvent soulever jusqu'à 50 000 kilos. Aussi. Uniquement avec des ventouses. Ah donc, c'est un système ingénieux. Et pourquoi si on lève 50 minutes, pourquoi ma serviette ne reste pas accrochée dans ma chambre de bain? Parce que la ventouse n'est pas de bonne qualité, tout simplement. J'ai au savoir, juin-juillet 2014.
Bien alors maintenant, avec cette musique qui nous roule sur le corps, qui nous donne une impression de rouler.
Ah oui.
Michel, je vais vous parler ce matin du tourisme à deux roues.
Oui.
Qui, petit jeu de mots, se détache du peloton, donc qui devient de plus en plus populaire. On a juste à penser au mois de juin, hein, premier dimanche de juin, toujours le Tour de Lille. C'était son 30e anniversaire cette année. Et le défi Pierre Lavoie, qui en était, je crois, sa 7e édition cette année. Donc, ça prend beaucoup d'ampleur.
C'est vrai.
Alors, tourisme à deux roues. Alors, donc, il s'agit ici donc de bicyclette, de cyclotourisme, une forme de tourisme qui gagne en popularité au même rythme que la pratique générale du vélo dans la population. Et j'ai tiré cet article d'un magazine qui s'appelle Tourisme Plus, un magazine québécois, daté du 19 septembre 2014. Et c'est Serge Abel Normandin qui écrit cet article. Voilà. Alors, donc, une activité de plus en plus prisée au Québec. Michel, est-ce que vous savez un peu...
J'ai aucune idée qu'est-ce que ça peut représenter comme nombre de...
Comme nombre, hein?
Comme nombre de cyclistes.
Bien, en 2010, selon Vélo Québec, c'est 3,1 millions d'adultes, dont près de la moitié de la population du Québec.
Oh, extraordinaire!
Et là-dessus, je dirais que la majorité de 2,7 millions s'adonnent à ce sport, à cette activité, pour leur loisir. Et ces chiffres marquaient déjà une forte progression par rapport à 5 ans plus tôt. Malheureusement, on n'a pas les chiffres d'il y a 5 ans, mais ça nous dit quand même que ça gagne en popularité.
Oui.
Et on ne doute pas que la tendance soit poursuivie, sinon accélérée. Donc, après avoir exploré que les cyclistes aient exploré leur entourage immédiat, bon nombre des adeptes de la petite reine veulent mettre à profit leurs moyens de locomotion favoris pour aller à la rencontre des sites, paysages, populations plus éloignées. Dès lors, bon nombre d'entre eux deviennent ce qu'on appelle des cyclotouristes. Donc, la petite reine, on se souvient, Laurence Leboeuf, qui était la figure marquante de ce film récent. Là, de...
C'était plus que du cyclotourisme. Hein?
Ça, c'était pas mal plus, oui. Alors, petite histoire, peut-être, Michel, ça date pas d'hier, on s'en doute un peu. L'inventeur du concept serait le Français Paul de Vivy, qui était aussi appelé Vélocio. Était même un adepte du vélocipède des frères Gauthier, on se souvient.
Ah, mon Dieu, l'immense roue avant. On se demandait toujours comment il faisait pour grimper sur cette roue.
Et pour ne pas tomber en
plus. Oui, particulièrement.
Donc ça aurait été inventé vers 1880. Par contre, aujourd'hui, le cyclotourisme combine plusieurs tendances, on ne peut plus actuelles, qu'on parle d'aventure, de transport durable, vacances actives, de slow travel, séjour expérientiel, voyage éthique et responsable, et aussi, sans oublier, c'est très important, le contact avec la population locale. Ça permet, le cyclotourisme permet ce genre d'expérience. Et comme la demande est bien présente, bien, il y a une offre de qualité qui se déploie aussi à travers de plus en plus de destinations. Selon le réseau de veille en tourisme de la chaire de tourisme Transat, dont la représentante est Claudine Barry, il y a d'infinis parcours qui sont possibles, qu'on pense au Québec avec ses 5000 km et la route verte, qui va peut-être même être appelée à se poursuivre. Aux États-Unis, la pratique du vélo et du cyclotourisme a donné naissance à des projets d'envergure comme l'Oregon Bicycle Tourism Partnership, qui vise à faire de cet État un chef de file du cyclotourisme, ou comme le réseau d'itinéraires cyclables US Bicycle Route System, toujours aux États-Unis, qui traverse le pays d'est en ouest et du nord au sud. L'Europe n'est pas en reste non plus, dont le réseau se consolide également. On parle de 23 routes nationales, celles des Pays-Bas notamment, le vaste National Cycle Network du Royaume-Uni, le réseau national de 3000 km géré par la Suisse, sans oublier bien sûr la France, avec France Vélo Tourisme, qui est un regroupement de partenaires publics et privés qui dessert plus d'un million de cyclotourisme en France, avec francevélotourisme.com. Qui plus est, l'Europe s'enorgueillit d'un réseau des réseaux qui s'appelle le European Cycle Route Network, ou Eurovélo en bon français,
oui,
qui regroupe 14 grandes routes du continent. Alors, c'est un projet de 70 000 km qui devrait être terminé d'ici environ 6 ans, donc en 2020.
Ah, c'est un beau projet, ça. Hein?
Oui.
Intéressant.
Oui, puis c'est intéressant que ça se développe non seulement pour les individus comme nous, mais pour les familles.
Oui.
Donc, la prochaine génération là, qui va s'y intéresser.
Grande amélioration.
Exactement. Il y a aussi des fournisseurs. On parle de destinations pour se rendre dans différentes parties du monde. Il y a plusieurs agences qui se spécialisent dans le cyclotourisme. Et si on regarde ici, la pratique du vélo, donc, se démocratise. Et les voyages à vélo ne peuvent plus être un créneau exclusif de quelques spécialistes. Michel, saviez-vous que ce sont des gens de 50 à 60 ans qui sont et des personnes qui sont scolarisées, souvent des professionnels qui participent activement à cette activité?
Je remarque que tu me regardes quand tu dis ça.
Est-ce que je te regarde? Je pourrais me regarder aussi. Alors, et savez-vous que s'il pleut, les cyclotouristes continuent. Ils sont même très fiers en fin de journée d'avoir pu dire « j'ai continué malgré la pluie ». Donc, Tourisme Plus, septembre 2014, un article de Serge Abel-Normandin.
Merci, Anne.
Merci.